retrouver certains, ce que je connais, puis ceux que je ne connais pas, puisque ça fait plaisir de voir une église avec de nouvelles personnes. Je viens à peu près tous les ans. Eh bien, oui, les choses changent. En tout cas, je suis heureux de partager avec vous ce moment de communion fraternelle et ce moment de partage de la Bible, partage de la parole de Dieu. Nous avons une bonne à prier pour que le Seigneur nous aide à nous ouvrir à sa parole. Eh bien, nous allons voir. Le passage qui va nous retenir ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Un passage très connu. Déjà. Alors je le lis. Nous nous mettons à sa écoute. En ce temps-là, Jésus dit: je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Voilà. Qui ne connaît pas ce verset? C'est une belle parole de l'Évangile, avec de belles promesses pour ceux qui répondent à l'appel du Christ. Il est parlé de connaître Dieu. Il est parlé de repos et de charges légères. Autant de choses qu'on ne peut que souhaiter à tout le monde, n'est-ce pas? C'est donc très naturellement que l'on estime ces paroles en premier à ceux qui, loin du Christ, souffrent du poids de leur fardeau, de la fatigue, de leur solitude. Chose tout à fait légitime. Il y a donc, bien sûr, ceux qui n'ont pas répondu à cet appel, ou qui ne l'ont jamais perçu, mais pourquoi pas les autres, pourquoi pas nous aussi? Pourquoi nous ne serions pas sensibles à cet appel, nous qui sommes déjà venus au Christ? Je reviendrai sur cette question. Mais avant toute chose, je propose que nous arrêtions sur les termes de cet appel. Certains, sans doute, feront remarquer que le repos ici pour nous n'est pas quand même tout à fait un séjour de vacances. Puisque, en évoquant le repos de Dieu, il reste quand même toujours quelque chose à porter. Il y a un joug. Je pense que la plupart d'entre nous savent ce que c'est qu'un joug. C'est ce qu'on mettait lorsque, autrefois, on travaillait dans les champs, on mettait ça sur les bœufs, pour qu'il tire la charrette, la charrue. Un joug, même si ce n'est qu'une image, c'est un certain nombre de choses à accepter, à être lié, accepter une volonté autre que la sienne, à vivre plus selon mon propre désir. Il est parlé d'une charge aussi, quelque chose qui pèse. Et c'est vrai que la foi chrétienne génère parfois quelques préoccupations qui lui sont propres. Les difficultés, même, ne disparaissent pas comme par enchantement. Et puis j'ajouterai que ce joug, il est accompagné d'un programme de formation à suivre. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. On est là pour apprendre, c'est-à-dire faire des efforts pour avoir un autre regard, pour accepter de se laisser remettre en question. On pourrait le dire autrement, on est là pour se discipliner. Le verbe grec qui est ici traduit par « laissez-vous instruire », c'est de la même racine que le mot grec qui est traduit par « disciple ». Le disciple, c'est celui qui se discipline. Et puis j'ajouterai aussi la persévérance, parce que eh bien, on ne devient pas disciple du Christ seulement pour un jour, n'est-ce pas ? L'école, en principe, on y reste un certain temps. Et puis même, certains d'entre nous y restent encore plus longtemps. Donc, comme on n'échappe pas à un certain nombre de règles pour vivre en société, eh bien, c'est la même chose à la suite du Christ. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre sa liberté? Vous imaginez ce que je vais dire quand même. Mais d'abord, dans la vie en général, vous savez, si on ne se soumet pas à une organisation, à des lois, avec des contraintes, bien on ne peut pas vivre en paix avec les autres. L'autonomie est tout à fait une illusion. Qui plus est, ce qui peut donner une impression de liberté se révèle souvent comme une entrave supplémentaire au repos que l'on recherche. Et bien justement, c'est là qu'il faut remarquer qu'avec son joug, Jésus fait aussi des promesses. À l'opposé d'un fardeau pesant, imposé par des règles ou par une prétendue liberté, Jésus propose certes une autre charge, mais une charge légère. Pourquoi légère? Eh bien parce qu'il la porte avec nous. Et je crois que c'est ça le principal, il la porte avec nous. Nous ne sommes pas dans un pays où l'Église est persécutée, et pour nous, les charges peuvent être lourdes, mais quelquefois, elles ne sont pas comme pour certains autres. Eh bien, cette charge, selon les témoignages que vous avez probablement entendus, à droite ou à gauche, cette charge, il la porte, mais elle est légère parce que Jésus la porte avec eux. Il y a un joug, mais un joug bon, aisé. Littéralement, on pourrait dire un joug bienveillant. Il y a un maître qui donne des instructions, mais c'est un maître doux et humble de cœur. Il reste des choses à porter, mais qui vient au Christ trouve son repos. Certaines éditions de la Bible mettent à la place du mot repos soulagement. Soulagement, on a cette idée que eh bien, c'est bon quand ça s'arrête. Bien sûr, Jésus parle principalement, avant tout, d'un repos intérieur. Vous savez, il n'y a pas que la fatigue physique, il y a ce qu'on appelle la lassitude, qui est sans doute plus difficile à guérir. Et puis j'ajoute, disciples qui proposait dans ces versets, ce n'est pas celle d'un serviteur avec son maître, mais plutôt, puisqu'il parlait d'un père, du père, d'un enfant avec son père. Venez à moi, c'est une invitation pour nous faire connaître Dieu comme un père. Et si Dieu, notre Créateur, est notre Père, eh bien, il est sans doute celui qui peut nous aider le mieux à vivre avec lui et en harmonie aussi avec nous-mêmes. Des choses que nous n'avons qu'à transmettre aux autres. Mais pour en revenir à ma question du début, à moi les chrétiens sont-ils concernés aussi? Je vais m'arrêter sur le contexte dans lequel Jésus prononçait ces paroles. À qui Jésus s'adressait-il? Eh bien, quelques 200 ans avant Jésus-Christ, et même peut-être un peu plus, il y avait déjà un certain Jésus, un autre. Jésus ben Sira, c'est-à-dire fils de Sira. C'était un rabbi célèbre en son temps, mais qui a été célèbre aussi par la suite, parce qu'il est l'auteur d'un de ses écrits qui n'ont pas été retenus dans nos éditions protestantes de la Bible, le livre du Siracide. Et ce Jésus, dans son écrit, lançait lui aussi une invitation. Et une invitation intéressante et surprenante. Je cite quelques phrases qui sont extraites de son discours. Soumettez-vous votre nuque à son joug. Que votre âme reçoive l'instruction. Et même pour finir, il évoque le repos qu'il a lui-même éprouvé en prenant ce joug. Surprenant, n'est-ce pas? Et assez proche des paroles de Jésus. Alors, il y a quand même une différence et de taille. Ben Sira parlait du joug de la loi. L'image pour évoquer la soumission à la loi était bien connue dans le judaïsme et même très probablement avant le Siracide. Donc, pour revenir au temps de Jésus, en s'adressant à un public juif, dans une société très encadrée par la religion, beaucoup plus que nous aujourd'hui, si Jésus propose son propre joug, et ce en reprenant les mêmes mots, c'est sans aucun doute pour s'opposer à ce joug que tout le monde avait entendu parler et que tout le monde était invité à suivre. Une concurrence, un joug de la loi. Alors, le Siracide n'avait sans doute pas tort en parlant du joug de la loi, mais à cause d'une mauvaise compréhension, beaucoup en étaient arrivés à refuser leur Messie. Juste avant, Jésus se plaint sur les villes de Galilée qui le refusaient. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient lieu à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles ont changé. C'est le drame du peuple de Dieu qui s'était attaché à la lettre de la loi en oubliant celui qui avait donné cette loi. La loi était devenue le moyen de se justifier. Dieu l'avait pourtant donné pour qu'en le suivant, le peuple lui manifeste son amour, pour qu'il aime son prochain, qui vive en paix, et pas pour que c'est pour qu'il se déclare juste lui-même, puisque comme le dira l'apôtre Paul plus tard, tous ont péché. La suite immédiate de l'évangile de Matthieu au chapitre 12 donne tout à fait l'exemple de ce que ça produit. Lorsque Jésus guérit un malade un jour de sabbat, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens sont là pour se scandaliser. Loin d'aller rapprocher de Dieu la connaissance dont ils se prévalaient, dont ils se vantaient, finalement ne faisait que les éloigner. Elle les avait poussés dans un orgueil arrogant, un orgueil aveuglant. Et dans le même temps, elle les avait chargés d'un fardeau accablant. On voit bien à quel point cette compréhension pouvait faire peser de contraintes et de culpabilité sur ceux qui lui étaient soumis, sans pour autant leur donner la vraie révélation du Père. Eh bien, justement, Jésus a fait mettre le seul à pouvoir révéler le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Il est la seule voie d'accès. Il me semble bien que le contexte dans lequel Jésus s'exprime pousse donc à avoir principalement un appel à se libérer du fardeau de la loi, à trouver Dieu sans se perdre dans des obligations stériles. Pour les auditeurs de Jésus, donc venir à lui, c'était renoncer à trouver sa justification dans la loi. Renoncer à abandonner ce mauvais fardeau pour un fardeau doux et léger. Et Jésus est rassuré en voyant les hommes, les tout petits, qui eux ont moins de certitude à défendre. Ils ont pu connaître Dieu sans avoir eu à emprunter les canons officiels des détenteurs de la sagesse, qui imposait des contraintes lourdes sur des fidèles. C'est ce qui rassure Jésus, de voir que même pour les plus petits, c'est plus facile. Pourquoi je m'attarde autant sur le contexte historique? Pour nous, on pourrait dire que n'ayant pas été sous le joug de la loi, nous serions peut-être moins concernés. Mais en proposant un autre joug que celui de la loi, pour Jésus, c'est une manière de disqualifier ce joug. Et il y a le pose une autre version. Un joug donc que l'on prend en renonçant à un autre. Alors, de la même manière, je crois qu'on peut élargir la question à tout autre système que celui de l'ancienne alliance, car c'est évident que d'autres choses peuvent faire écran entre nous et notre Père, et auxquelles, eh bien, il nous faut renoncer. Alors, autant qu'une pratique légaliste, je peux voir dans ces fardeaux tout ce que Jésus peut nous inviter à déposer. Il y a tout ce qui peut nous assaillir, nos soucis, mais aussi ce à quoi nous sommes attachés, et même ceux qui nous aident parfois pour vivre en société. On ne peut pas se passer de règles pour vivre en Église aussi, de valeurs. On ne peut pas se passer d'idéaux. Les idéaux peuvent être des raisons de vivre, et ceux qui ont rejeté Jésus en avaient aussi. Mais des idéaux qui ne sont pas toujours en capacité de résoudre nos problèmes, en tout cas d'apporter la paix. Je crois que tout ce qui nous aide à vivre d'une manière efficace peut quand même compromettre notre paix, dans la mesure où ça prend la place de notre relation au Christ. Les soucis qui peuvent nous assaillir, et aussi nos attachements. Parmi les choses qui nous aident à vivre, il y a ce qui peut nous divertir, ce qui est en soi très utile, mais qui peut aussi divertir dans le sens de détourner de l'essentiel, en prenant toute la place. Peut-être en nous satisfaisant pendant un certain temps, mais sans nous accorder le vrai repos. Alors, dans son loisir, mais il y a tout un tas d'occupations, et même parfois le travail. Certains sont mangés dans leur emploi du temps par le travail. Plus subtil encore, on peut chercher à calmer ses inquiétudes par la bonne conscience du devoir accompli, en se livrant à beaucoup d'activités, voire même dans l'Église, tout en négligeant l'essentiel, sauf si c'est possible. Des moyens sûrs d'aboutir à la frustration, des moyens de se charger de fardeaux parfois lourds, et pour un chrétien, de perdre de la qualité dans sa relation avec son Père, pour n'en garder qu'une petite partie. Et ça, c'est une solution plus difficile à vivre. Difficile pour lui et quelquefois pour ses proches. Jésus a donc la prétention d'être le seul par qui l'on puisse approcher et connaître le repos avec Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur d'insister sur cette rencontre personnelle avec lui. Le jour proposé est bon, bienveillant, et notre maître est doux et humble de cœur. De plus, il nous permet d'échapper au système impersonnel d'une loi qui pèserait sur nous. Il nous permet de connaître le vrai Père, notre Père. Encore faut-il renoncer à nos certitudes, à tous ces fardeaux. Et c'est parfois difficile parce que même s'ils sont pesants, ils nous flattent en nous rappelant ou en rappelant aux autres que nous sommes capables de quelque chose, en nous laissant penser que nous avons quelque chose à faire valoir devant Dieu, devant les autres. Justement, ce qui réjouit le cœur de Jésus, c'est la foi de ce tout petit qui n'avait rien à faire valoir. C'est pas si facile, me direz-vous. Mais sachons que Dieu nous aide, car Dieu peut nous accompagner si nous acceptons de nous charger de son fardeau. Et il est bon, même pour le chrétien, de revenir là. Alors même si toutes ces charges nous flattent, si elles nous pèsent, le Seigneur peut nous en délivrer. Qu'il nous aide à les abandonner pour ce joug doux et léger. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, dans le recueillement. nous sommes parfois accablés, nous sommes parfois soulagés de diverses manières. Mais Seigneur, c'est ton joug que nous devons porter. C'est notre lien à toi. Gardez-nous de l'oublier. Amen. Alors, donc,